Je réfute totalement cette
Bonjour à tous et merci d'écouter ce dernier numéro des paroles aux auditeurs de cette semaine. C'est vendredi 3 février 2012. Nous faisons le point avec vous sur la situation des prisons et prisonniers à travers le pays. Deux prisonniers ont trouvé la mort et 4 autres sont dans un état critique dans la prison d'Ilebo au Kasaï occidental. C'était la semaine dernière. Et selon le médecin traitant de cette maison carcérale, toutes ces personnes sont victimes de la diarrhée. Tout en craignant le pire, le médecin traitant s'inquiète de la lenteur de l'administration pénitentiaire dans le transfert de ces infortunés vers les structures médicales de la cité où ils peuvent être pris en charge vu l'absence des soins dans la prison. Notons également qu'une dispute autour de la ration alimentaire a occasionné mort d'un prisonnier en fin de mois dernier dans la prison centrale de Goma au Nord-Kivu. Face à cette situation, que proposez-vous pour faire face à cela? Parole aux auditeurs à inviter pour vous, Maître Fendouko, porte-parole du ministre de la Justice, pour en parler. Marie-Chantal Lumba réalise cette émission mise en onde par Monique Ndou, Nicole Data la supervise, et Pierre Lamézou la présente. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Capé vous propose la tribune de la presse. Analyse, explication et débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et audiovisuel. La tribune de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. Une émission à réécouter sur internet, radiocapi.net.
Et nous parlons des prisons, des prisonniers. C'est que vous proposez-vous, auditeurs des Radio Capi, pour l'amélioration de la situation dans les prisons, avec les exemples de ceux qui sont morts à Ilebo à cause de la diarrhée, et aussi la dispute autour de la ration alimentaire à Goma qui a entraîné mort les prisonniers. Nous en parlons avec vous. Vous avez besoin d'intervenir, nous donnons votre point de vue, appelez-nous au 081-890-6315, et vous avez la possibilité de nous poster votre commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Déposez-nous votre commentaire, nous allons le récupérer pour l'exploiter dans cette émission, mais n'oubliez pas aussi l'adresse électronique pa@radiocapi.net pour l'envoi de vos commentaires et propositions dans cette émission. Nous avons un auditeur qui nous appelle de Kimbulu au Kasaï occidental, c'est Patrick qui est en ligne. Bonjour, Patti.
Bonjour, Pierrot. C'est Patient Kitoko et non Patti.
Patient Kitoko, vous êtes à Kimbulu, au Kasaï occidental. Patient, merci d'être en ligne. Nous dégageons les pistes et les solutions pour trouver solution au problème de prisonniers à travers le pays. Là, on a des petits soucis de ligne avec Kimbulu, au Kasaï occidental. On vient de perdre Patient Kitoko qui était déjà sur les antennes. 081-890-6315. C'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Mais n'oubliez pas aussi, vous avez la possibilité de déposer un commentaire autour de ce sujet sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs, comme l'a fait Nathalie Moussaou qui nous a écrit ceci. J'ai l'impression qu'au Congo, un prisonnier n'a pas droit à la vie parce que nos prisons sont très sales. Tous ceux qui sont en prison deviennent malades d'une manière ou d'une autre à cause des mauvaises conditions de détention. Je pense que c'est suite à la mauvaise foi du gouvernement congolais. Je pense que le gouvernement ne fait pas ce qu'il faut pour que les prisonniers puissent se retrouver et puissent être dans de meilleures conditions de vie. C'est Nathalie et Moussaou qui nous a écrit, qui a déposé son commentaire sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. On a perdu Patient qui nous a appelé des Kimbulu, mais nous avons Sébastien qui est à Congolo, dans la province du Katanga. Bonjour Sébastien.
Bonjour, monsieur
Jouaniste. Oui, de toute façon, il serait mieux aussi de diminuer le volume de votre poste récepteur parce qu'il y a un écho-retour qui ne peut pas vous permettre de mieux intervenir sur les antennes. Comme ça, on va échanger à travers les téléphones portables. On vous écoute, Sébastien.
Oui, Oui, la prison, c'est une maison de rééducation des détenus. Hein. Ce n'est pas un endroit qu'on doit comparer à un enfer. Celui qui a créé, celui qui a construit les prisons, c'est quasiment le gouvernement. Il n'y a que lui qui doit prendre en charge les détenus, voir les soins médicaux, leur approvisionnement en vivres et autres. Le gouvernement est responsable de tout ce qui arrive aux prisonniers, parce que il faut alléger sa responsabilité. Voilà un peu ma préoccupation.
Mais nous voyons aussi des fois, Sébastien, dans la communauté, il y a des églises qui s'organisent, il y a des associations civiles au niveau des ONG aussi qui s'organisent pour venir, pour secourir les prisonniers. Pensez-vous qu'il n'y a qu'un État seul qui doit les faire? Et dans des conditions, on se rend peut-être compte que l'État ne répond pas, comme l'a dit notre ami qui nous a écrit, Nathalie, qui a dit que l'État ne les prend pas en charge comme il faut. Faudrait-il abandonner les prisonniers ou y a-t-il moyen d'avoir d'autres initiatives au niveau de la communauté pour assister les prisonniers?
Ah oui, si j'ai doigté, si j'ai pointé en premier lieu le gouvernement, c'est parce que lui, il est habilité à pouvoir venir en aide aux prisonniers. Je veux dire que les autres organismes, les ONG, par exemple, peuvent toujours secourir tous ces détenus-là.
Voilà, merci Sébastien. Vous pensez que la mission première pour le soutien, pour s'occuper des prisonniers, revient d'abord au pouvoir public, au gouvernement, et les structures, les ONG, les églises viennent en appui à ce que l'État doit faire. Merci beaucoup de ce point de vue et cette proposition. Vous êtes à Kongolo, dans la province du Katanga. On va rester dans la même province, mais cette fois-ci dans la capitale, avec Evariste qui est à Lubumbashi. Bonjour Evariste. Evariste, vous êtes en ligne, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi notre ami patient qui est, Sébastien qui est à Kongolo, qui a pensé que la mission première vient d'abord au pouvoir public de s'occuper des prisonniers et les structures de la communauté peuvent venir en appui. Quel est votre point de vue, Evariste? Surtout en vous déplaçant, je ne sais pas s'il y a des bruits tout autour de vous.
Ah, ok, monsieur Evariste, bonjour d'abord.
Bonjour.
Oui, je sais que comme des prisonniers, ça fait des formes chaque jour, chaque fois, alors je ne sais pas quelles sont des notions qu'on donne aux détenus de chaque prison, quelles sont les tests que ces gens-là sont en train de faire chaque année. C'est-à-dire, comme s'il y avait quand même un monsieur, un président, peut-être chef de prison, qui est là comme invité, je pense qu'on allait quand même lui poser des questions. On peut quand même nous donner les bilans de chaque prison.
Oui, Ovaric, oui. À votre ligne, il semble se détériorer, mais allez-y, maintenant, ça s'est amélioré, allez-y. Ovaric, vous êtes assez distrait parce que vous écoutez l'émission à travers votre poste récepteur, ça ne permet pas que nous puissions communiquer. Vous étiez en train de dire que s'il y avait un gestionnaire de prison, si les agents, vous allez lui poser des questions. Je vous ai annoncé qu'on aura d'un moment à l'autre le porte-parole du ministre de la Justice avec qui nous allons échanger. Mais allez-y, déjà poser des questions parce que ces questions seront transmises, n'est-ce pas, à l'invité qui pourra vous répondre, Ovaric.
Oui, tu nous dis ce qu'il a fait. Qu'est-ce qu'ils ont dit en ce qui concerne les prisonniers de la RDC pendant leurs 5 ans? Combien de prisonniers et de prisons qu'ils ont entretenus pendant ces 5 ans et qu'il a été les résultats? Tu nous donnes un peu les bilans, parce que ça nous fait mal. Tu nous donnes d'abord un peu ce qu'ils ont fait pendant les 5 ans de leur gestion concernant les prisonniers de la RDC.
Merci, Evariste. Vous posez la question aux représentants du pouvoir public avec qui on pourra être inscrit, mission de savoir quel est le bilan, n'est-ce pas, en ce qui concerne les prisonniers, les prisons, qu'est-ce qui a été fait pendant 5 ans, la durée de ce mandat, qu'est-ce qui a été fait pour les prisons, pour les prisonniers. Merci Evariste, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, 081-890-6315, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission, mais vous pouvez également le faire par l'adresse électronique pa@radiocapi.net, mais aussi poster votre commentaire sur la page Facebook de l'émission Parole aux auditeurs pour vous qui avez accès à l'Internet. Et ce commentaire pourra être exploité dans cette émission. Et nous avons un patient qui est à Kimbulu qui est revenu de Kimbulu au Kasaï occidental. Je crois que la ligne s'est améliorée maintenant. Patient, on vous écoute. On vous écoute, oui.
D'accord. Bon, je voudrais dire ce qui est Pierrot. Les prisonniers, pourquoi on ne peut pas les privilégier? Parce que ce sont les gens qu'on peut arrêter, par exemple, pas des crimes de guerre, crimes de contre l'humanité et autres. Bon, mais ces prisonniers-là doivent être protégés quand même pour éviter la mort des prisonniers, M. Pierrot. Donc, le gouvernement congolais doit prendre à charge toutes les prisons pour garder et privilégier bien ces prisonniers.
Mais en attendant, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent dans les prisons, on se rend compte de fois que les réponses elles sont tardives. Vous avez appris à Ilebo qu'il y a eu deux prisonniers qui sont morts parce qu'ils étaient malades. Et là, le médecin qui les traite s'inquiète du fait qu'il y a eu une forte lenteur pour les transferts des prisonniers dans les hôpitaux. Et devant ces problèmes qui se posent, quelles sont les pistes et solutions que vous pouvez proposer aux patients pour qu'on puisse faire face à la situation? En attendant, bien sûr, toutes ces réponses du gouvernement, peut-être plus tard dans venir.
Bon, M. Pierrot, là-bas, vous aviez entendu qu'il y avait les disputes entre les gardes et les prisonniers. Donc, il faut aussi conseiller, donc, convoquer une formation pour conseiller les gardes qui gardent les prisonniers. Comme ça, on va bien progresser.
Merci, patient, mais il faut aussi l'encadrement de ceux qui s'occupent des prisonniers. Ça peut permettre à ce que les droits des prisonniers puissent être respectés. Merci beaucoup aux patients. Vous êtes à Timbuktu, c'est au Kasaï occidental. En Bouzima, et non loin de là, nous avons David qui est en ligne. Bonjour, David. David, vous êtes en ligne. Bonjour. On a des petits soucis là avec les lignes téléphoniques, hein, mais continuez à insister. Des fois, quand vous nous appelez, vous avez des difficultés à nous joindre. Et c'est qu'on a des petits soucis avec les lignes téléphoniques, mais nous faisons de notre mieux pour que vous puissiez intervenir au 081-890-6315. David était en ligne de Bouzma et au Kasaï Oriental. Malheureusement, on l'a perdu sur la ligne, hein, mais continuez aussi à nous poster vos commentaires sur la page Facebook de l'émission Parole aux auditeurs et ces commentaires qui pourront être récupérés et exploités sur les antennes.
Radio Capsule est aussi avec vous sur la solution, en direct avec toute l'équipe de Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs, parler, nous transmettons, proposer, nous discutons. Parole aux auditeurs, le lundi à vendredi à 11h et mercredi à 10h, on ne finit pas. Prenez la parole et nous vous écoutons. C'est pour Radio Capsule.
Et ce vendredi, Parole aux auditeurs se penche sur la situation dans les prisons. Vous avez bien suivi sur les antennes de Radio Capi, mort d'homme à Ilebo, au Kasaï occidental, mais aussi à Goma, au Nord Kivu, ici, la diarrhée. De l'autre côté, une dispute autour de la ration alimentaire. Comment faire face aux problèmes de difficultés dans nos prisons? 081-890-6315, c'est le numéro d'appel. Ici à Kinshasa, un intervenant est en ligne, c'est Cindy. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Radio Capi. Bonjour, Parole aux auditeurs.
Oui, eu égard à la situation, qu'est-ce que vous proposez, Cindy, vous, pour qu'on puisse faire face quand même aux conditions qui vivent les prisonniers à travers le pays?
Merci vraiment pour m'avoir associé pour l'émission d'aujourd'hui. Avant de donner mes propositions, je voudrais seulement faire savoir que nos prisons de la RDC sont considérées comme l'enfer sur terre. Or, nous savons bien que les prisons sont des milliers de la rééducation. Vous, milieu de rééducation, pourquoi? Parce que vous avez commis tel gaffe, alors vous allez là-bas, on vous prive seulement la liberté, et puis on doit vous former pour que vous, en sortant de là, vous soyez devenez quelqu'un, vous abandonniez les mauvaises pratiques ou les mauvaises choses que vous faisiez avant d'entrer en prison. Mais chez nous, c'est vraiment terrible. Alors, qu'est-ce que moi, je pouvais proposer? Je crois que à l'année 2010-2011, on a nommé un certain nombre de magistrats ici, je crois plus de 1000. Moi, nous estimons que avec la nomination de ces magistrats, on pouvait désengorger les prisons en faisant pas en jugeant les détenus qui sont déjà là pendant 5, 10, 15, 20 ans, qui n'ont jamais été auditionnés, mais juste pour la première fois. Et puis, le nombre de prisonniers accroît chaque jour. Chaque jour. Alors, que le gouvernement planifie un peu? On sait que la peine a été arrêtée. Alors, qu'ils soient en prison, on sait qu'ils ont arrêté pour tel motif, on les fait passer à la barre, on les juge, puis ils terminent la peine, et puis ils libèrent.
de libérer la place comme ça, les autres peuvent venir. Alors que dans notre société, sur notre consentement, on arrête quelqu'un et il est gardé plusieurs années inutilement, bon, pas inutilement, mais sans être jugé. Et cela, ça fait augmenter le nombre de prisonniers et puis les moyens pour les nourrir, pour les soigner. Ça pose problème. Alors, on se demande, nous sommes dans quel état. Alors, voilà un peu ce que moi je propose. Non, il faut qu'on arrive d'abord à mettre le planning pour rendre le jugement à ceux qui sont arrêtés, puis construire à la longue, parce que nos prisons sont existent. Hein. Vous remarquez les prisons que nous avons, je ne sais pas si on en a construit encore quelques-unes, je ne pense pas, et c'est que les Belges nous ont laissé. C'est de construire d'autres prisons et évacuer ceux qui sont là à les juger certainement. Comme ça, on respecte aussi les droits de l'homme, à sachant que non, quand on est en prison, on a quand même droit de soins, droit de manger, ainsi de suite, ainsi de suite.
Merci, Sengi. Vous pensez qu'il y a aussi des problèmes de désengorgement, hein? Il y a un surpeuplement au niveau de nos prisons, parce qu'il y a beaucoup de prévenus et des condamnés. Vous avez évoqué le fait que plus de 1000 magistrats ont été nommés. Faudrait-il effectuer plus rapidement les affaires et désengorger nos prisons? Et puis, construire de nouvelles prisons, ça peut permettre à ce que les conditions soient améliorées. Et ça, le moniteur que notre invité a fait s'entrer dans ce studio, Maître Rifon Luko, bonjour.
Bonjour, Pierre.
Avant de vous accorder la parole, nous allons écouter David qui nous appelle de Mboujimaï au Kassai Oriental. Bonjour, David. C'est David, vous êtes en ligne, bonjour. Assurément, le téléphone nous pose assez de problèmes, mais bon, on va se battre, tant mieux que mal, pour que les auditeurs puissent intervenir. Nous vous donnons directement la parole. Nous faisons le point avec les auditeurs sur la situation dans nos prisons. On en a déjà parlé plus d'une fois. Ici, il y a ceux qui sont morts de diarrhée à Ilebo, à Goma, une bagarre autour de la ration alimentaire entraîne mort d'un prisonnier, c'était la semaine passée. Mais il y a un auditeur qui vous a posé une question avant que vous puissiez entrer dans ce studio. Il a dit, est-ce qu'on peut avoir un petit bilan pour les 5 ans de cette législature et ce qui a été fait concrètement au niveau du pouvoir public en ce qui concerne les prisons?
Ok, merci. Je salue d'abord tous vos auditeurs. Ça fait un beau bout de temps. Ils ont réclamé que pourquoi nous n'est pas surpris pour nous pas les informer par rapport à ce qu'on est en train de faire. Évidemment, nous avons été appelés à notre devoir. Et dernièrement, nous étions même partis dans le cadre toujours de ce formateur de renforcement des capacités, visiter la prison centrale de Californie, à Los Angeles. Et là, nous avons également constaté une sorte de droit comparé par rapport à la façon dont les autres prisons sont gérées. L'expérience que nous pouvons tirer, ou bien l'économie que nous pouvons tirer, n'est-ce pas, de cette expérience depuis des 100 ans de gestion d'une prison. Alors ça, c'est de un. Par rapport notamment maintenant ici que nous ne venons pas chaque fois ici à la radio pour nous justifier, n'est-ce pas, pour donner des prétextes et tout ça, nous défendre, non. Comme on dit, gérer, c'est prévoir. En ce qui concerne le bilan d'abord, c'est la première préoccupation de l'auditeur. Qu'est-ce que nous avons fait pendant 5 ans? Eh bien, voici quelques éléments de réponse. Nous avions commencé par constater que toutes nos prisons n'étaient pas réhabilitées depuis tout ça. Il fallait donc commencer la réhabilitation. Deux, nous avions constaté que la plupart de nos prisons contenaient des détenus ou condamnés civils et militaires. Des fois même, femmes et hommes.
Oui, même en cellule, voilà.
Alors donc, premier devoir, c'était la réhabilitation. Peut commencer d'abord parce que nous avons appelé la réforme pénitentiaire. Cette réforme a commencé. Principalement, nous avons cru que comme nous ne pouvions pas réhabiliter toutes nos prisons, parce qu'à l'époque, le prison que nous avons été la connotation, c'est presque dans chaque territoire, il y avait une prison, dans chaque territoire. Mais donc, c'est plus des prisons à la fois. Il y a d'autres qui sont totalement abandonnées et totalement vétustes, totalement de la prison. Alors, nous avions ciblé les grandes prisons. C'est pourquoi, à l'époque, nous avions constaté qu'il y avait des prisons qui valaient encore la peine. Notamment la prison centrale de Kinshasa, qui est le Seperka. La prison de Lubumbashi, Kasapa, et la prison de Bounouo, de haute sécurité. Mais les prisons comme les Angenga, les Kapolala, il fallait réhabiliter. Et les travaux avaient déjà commencé, et il y a des détenus qui sont là-dedans. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Un, nous venons, la prison de Ndolo a été, là je suis en train de répondre directement, la prison de Ndolo a été abandonnée pendant 30 ans, il n'y avait plus rien. On a reconstruit et désormais, à Kinshasa, les détenus militaires...
Il y a plus de partenaires, bien sûr.
Évidemment, naturellement. La prison à Kinshasa, les détenus militaires ne vont plus à Makala. Désormais, ils ont leur prison, prison de Toro. Deux, à Beni, à l'est du pays, nous avons construit la prison de Kakwangura. Kakwangura, nous avons construit la prison des enfants, à Beni, léger. À Bounia, on a construit également une prison, toujours tout ça avec la coopération. D'autres fonds propres, d'autres avec la coopération. Donc, brièvement, et les prisons comme Café Langenga et Ostio sont en train d'être réhabilitées, toujours avec la coopération. Alors, le gouvernement, dans le projet ou le programme qu'il a, c'était que nous n'allons plus construire des prisons comme jadis. Nous allons faire comme dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, il y a des régions judiciaires ou des régions pénitentiaires. Donc, il y a une grande prison au centre, une grande prison au nord, une grande prison au sud. Alors, nous allons faire, nous appelons ça des prisons pilotes. Donc, la prison de Bouya, une autre prison pilote qui va couvrir toute l'est du pays. La coopération va commencer les travaux éventuellement ici au mois d'avril, mai, la coopération japonaise. Une autre prison pilote au centre, c'est-à-dire notamment entre Mbujima et Kananga, et une autre prison pilote à l'ouest. Donc, pour que les transferts croisés, comme on avait déjà commencé, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus de condamnés qui puissent faire la prison chez eux. Ça nous a beaucoup aidé, n'est-ce pas, psychologiquement. Donc, les transferts croisés, vous êtes condamnés à Itiro, eh bien, vous allez purger votre peine à Matadi ou à Boma. Vous êtes condamné à Boma, vous allez purger votre peine à Lumba. Donc, quelque chose comme ça, davantage pour faire une sorte de brassage de condamnés et à ce qui les concerne aussi, n'est-ce pas, de consolider l'unité nationale à ce qui concerne les condamnés. Ensuite, dans cette réforme, il y a ce que nous appelons ce problème des prisonniers qui ne mangent pas. À l'époque, il y a plus de 30 ans, les prisonniers se nourrissaient eux-mêmes, notamment par les travaux champêtres. Alors, nous avons estimé, dans cette réforme que nous avons déjà commencé, comme cette prison pilote et toutes les prisons, parce que finalement, toutes nos prisons se retrouvent dans des villes. Alors qu'à l'époque, lorsqu'elles étaient construites, elles n'étaient pas dans les villes, elles étaient éloignées des villes. Mais l'expansion urbaine a rejoint les prisons à telle enseigne que la plupart de nos prisons sont maintenant dans les villes.
Voilà. Alors, nous n'en saurions pas les autres
habitations. Donc, complètement, il y a même des prisons où. C'est Lemba au Makala, donc c'est extraordinaire. Donc, cette prison également, d'ici quelques années, cette prison doit quitter là-bas et se retrouver éloignée de la ville, donc à plus de 50, 60 km de la ville, pour que nous ayons la possibilité de mettre autour de la prison les plantations, les fermes, les potagers et consorts, pour que les prisonniers puissent commencer à manger à leur paix, selon leur goût, parce qu'il y a beaucoup qui ont des régimes. Et dont nous avons la peine, n'est-ce pas, avec n'est-ce pas, la difficulté déjà de nourrir ceux qui sont dehors, la difficulté de faire soigner ceux qui sont dehors, donc, cette crise économique généralisée, ça va également, c'est concerné les prisons.
Voilà, ça c'est, vous l'avez expliqué d'une manière brève, c'est très bien. Mais il y a l'auditeur qui vient d'intervenir, c'est Sandy de Kinshasa, il a parlé, et il a évoqué ce problème de surpeuplement, par le fait aussi qu'on a beaucoup de prévenus, que des condamnés, on en a parlé dans une récente émission, que la plupart des gens qui se retrouvent dans les prisons, ils sont prévenus, ils ne sont pas condamnés. Ce qui fait que vous avez 100 prisonniers, si vous avez à peine 18 condamnés, les restes sont des prévenus, ça devient complètement difficile de pouvoir les gérer, améliorer les conditions parce qu'ils sont tellement nombreux. Qu'est-ce qui est fait pour désengorger les prisons par rapport
à tous ces problèmes? Ce principalement, c'est le renforcement du contrôle par la hiérarchie judiciaire, c'est-à-dire les procureurs, le magistrat même qui contrôle les cachots, le procureur qui contrôle la détention qui concerne le parquet ou les prisons, et les procureurs généraux, partout ils se trouvent. Parce que ce sont celles qui ont le pouvoir de constater que cette détention est régulière et de relâcher les gens. Et en définitive, dans ce conseil de ministère de la justice, nous sommes d'ailleurs en train de préparer d'ici là les libérations conditionnelles. C'est-à-dire la façon dont on désengorge les prisons par rapport aux condamnés, c'est le soit les chefs de l'État qui signent les grâces ou les amnisties, et en particulier le ministre de la justice, continuellement, il constate, il reçoit les rapports de directeurs de prison, de directeurs de nos prisons, pour constater les détenus, les condamnés qui, n'est-ce pas, se sont améliorés dans leur comportement là-dedans, et que nous pouvons concéder d'aller terminer leur peine à la maison. C'est le ministère de la justice, comme l'appelle de nos valeurs. Et donc, d'ici là, nous allons encore libérer d'autres personnes pour aller terminer leur peine à la maison. Alors, nous savons, évidemment, qu'il y a un problème. Nos magistrats arrêtent pour toute histoire. Pour toute histoire, on arrête. Évidemment, nous, au ministère de la justice, on est en train de penser, de poser un projet pour que, désormais, pour un certain nombre des infractions qu'on appelle des premières catégories des infractions bénignes, qu'on ne puisse plus arrêter. Parce que finalement, ce que nous constatons, et vraiment avec nos magistrats de la tolérance zéro, comme on les appelle par la population, ils arrêtent presque un peu trop. Hein, presque un peu trop par rapport à la qualité des infractions. Mm-hmm. Alors ce qui fait que nos prisons se retrouvent pleines par de tout petits poissons, nombreux petits poissons, souvent pour plein de choses. Le ministre, dernièrement, a demandé au ministre, bon, j'ai visité les cachots, les prisons, mais je ne vois pas des gros poissons. Donc, ça veut dire que je ne vois pas
des gens qui
sont gros calibres criminels pour que nous soyons fiers que notre justice n'est pas à deux vitesses. Robuste uniquement pour le petit poisson, très robuste. Mais le gros poisson, vous voyez, la justice, lever les pieds, donc c'est compliqué. Alors, nous avons donc voulu que la relance du contrôle par la hiérarchie des magistrats permet de désengorger nos prisons. Ce trompe-là partout, c'est parce que nos magistrats ne font plus leur contrôle régulièrement. Ils parlent régulièrement parce que ce sont eux qui désengorgent en contrôlant, en constatant qu'il y a des magistrats qui t'arrêtent et ils oublient. Vous êtes là 2, 3, 4, 5 mois et lui est dans 6 histoires et il va oublier. Donc lorsque les choses passent, les choses parlent le procureur. Le procureur général, eh bien, il constate peut-être des pensées régulières et il met les adhérents.
Voilà, on va évoluer. Nous avons David qui est en Boujumaï, Thomas est à Kindou, mais nous avons aussi le professeur Koubam Kalala qui est ici, qui est aussi au téléphone, qui va donner son point de vue par rapport à cette situation, comment améliorer les conditions de vie dans nos prisons. David, Thomas et professeur Koubam Kalala, gardez la ligne. Nous allons vous accorder la parole tout juste après quelques secondes.
Parole aux auditeurs.
David, ça fait deux fois qu'on a eu des petites difficultés à vous joindre à partir de Mbouzmaï. Maintenant, je crois que la ligne s'est améliorée. Bonjour, David.
Ok, merci bien.
Mm-hmm. On vous écoute, David.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Merci d'abord.
Merci.
Oui, les problèmes que nous avons, vous savez que toutes les maisons carcérales ont été l'édifice de la gestion coloniale. Compte tenu des données démographiques et les faits infractionnels qui se posaient d'une façon sporadique. C'est que maintenant, nous avons la croissance de la population et les faits infractionnels se sont acquis. Alors, à cela, on doit comprendre pour ne pas tout voir en noir. Parce que toutes les questions qui se posent et des revendications donc, ont toujours la connotation politique et pourtant, pour ne pas considérer totalement la réalité. Et que nous venons d'une législature qui a pensé à une réforme et on a édicté plusieurs lois à ce titre-là. Et donc, maintenant, nous allons voir l'exécution parce qu'on doit reconstruire les maisons carcérales pour la bonne contenance. C'est la première considération. Et de deux, les intervenants, que ce soit les ONG, sociétés civiles, les partis politiques, qui n'ont pas le devoir d'éduquer la population pour être attentifs à ne pouvoir commettre toutefois les faits infractionnels, parce que la justice doit arrêter tout le monde. Et on doit poursuivre tout le monde. Malgré qu'il y a le délaissement, les magistrats ne visitent pas les prisons ou bien ne revoient pas les temps selon les délais pour les arrêts et les arrestations. C'est là, c'est bien indiqué que les magistrats affichent une négligence. Mais le vrai problème, c'est quoi? On doit reconstruire les maisons carcérales. Parce que nous avons quand même une population qui est allée au-delà de ce qui a été avant ou bien pendant la période du temps colonial et après la décolonisation.
Mmh.
Voilà.
Merci.
Cela,
Oui, allez-y, ajoutez rapidement.
Oui. Alors, c'est cela que nous devons comprendre parce que tout ne doit pas être politisé. C'est une culture politique parce qu'on ne doit pas tout voir en noir comme je vais revenir à mon allégation.
Merci, David. Vous êtes en Boujumaï. Il ne faut pas politiser tous les débats. Hein, de toute façon, mais vous avez insisté sur deux points. D'abord, il faut construire de nouvelles maisons carcérales parce qu'il y a les données démographiques qui se pose dans ce débat, mais aussi un autre point, nous avons interpellé la société civile, les partis politiques aussi, à pouvoir éduquer la population pour que les gens évitent de commettre des infractions. S'ils sont nombreux qui se retrouvent là-bas, c'est parce qu'il y a des infractions, et ça c'est le deuxième volet de votre intervention. Merci beaucoup David. Vous êtes en Boujouma et au Kasaï Oriental. Nous avons Thomas qui est à Kindu, dans la province de Maniema. Bonjour Thomas.
Bonjour Monsieur Pierrot.
On vous écoute Thomas.
Hello?
Oui, vous êtes en ligne, oui, allez-y, Thomas, on vous écoute.
Oui, je voulais dire ceci, M. Pierrot. Il est vrai que la prison, c'est une place qui est réservée aux individus sans ordre national. Et moi, je me dis, derrière cette prison, l'État se fixe un objectif à poursuivre. Ça veut dire, il cherche la rééducation, le changement de mentalité de ces prisonniers-là. Ce n'est pas de l'air focalisé vers la mort. Mais il se fait qu'au Congo, toutes les prisons sont considérées comme des miroirs de la mort. C'est-à-dire, quand quelqu'un est emprisonné, dans sa tête, il connaît qu'ici, je vais aller mourir. Ce n'est pas le cas. Pourquoi ? Dans toutes les prisons, soit il y a un problème d'alimentation, il y a un problème de soins appropriés aux prisonniers, il y a un problème de logement, la capacité d'accueil d'abord, et un problème de manque de propriété dans toutes les prisons en République démocratique du Congo. C'est ce qui fait parfois que le prisonnier cherche à évader et par conséquent, les policiers chargés de sécuriser toutes nos prisons, ils arrivent à pied à bout portant et nous arrêtons les cas de mort. Et moi, qu'est-ce que je propose pour le moment? La première chose que je propose pour mettre fin à tout ce que nous sommes en train de déplorer, c'est d'abord, en cas d'arrestation d'un prisonnier, je crois dans 48 heures, tout prisonnier doit être fixé sur son sort, monsieur le journaliste. Il doit être jugé, ou soit il doit être libéré, ou s'il est à la suite de toutes ces infractions, des infractions, il est arrêté, il connaît que je suis arrêté, et là, il est dans la prison. La deuxième des choses, c'est l'installation des unités de santé à côté de chaque prison, qui est des corps médicaux, pour prendre soin des prisonniers qui sont tombés malades. La troisième des choses que je propose, c'est de veiller sur la capacité d'accueil. Par exemple, à Goma, la prison de Mourtes, de quoi vous venez de suivre l'information, qui détient au moins 1059 prisonniers dans une prison. Et les prisonniers qui vont manger à 17h, ils attendent les 17h de l'autre jour pour manger. Comment ces gens doivent vivre dans de telles conditions, monsieur le journaliste? Et je propose pour terminer maintenant, c'est la construction des installations sanitaires. Il y a tout dans toutes les prisons. Les gens sont en train de vivre avec les ensemble, avec les histoires que tout le monde peut être en mesure de vivre avec. Vous comprenez, monsieur le journaliste?
Voilà,
donc,
merci.
Pour terminer, j'en appelle aussi tous les prisonniers dans toutes les prisons de revendiquer aussi leurs droits. Ils ont le droit de revendiquer, ils ont le droit, quelque part, à vivre malgré qu'ils sont emprisonnés.
Merci. Merci Thomas. Vous avez proposé quatre choses. D'abord, il faudrait qu'on respecte les délais en ce qui concerne la détention. Il faut que cela soit respecté. Mais contre la construction des unités de santé dans chaque prison, améliorer les capacités d'accueil, mais aussi, vous avez interpellé les prisonniers parce qu'ils ont des droits qu'ils puissent revendiquer l'amélioration de leurs conditions de détention. Nous avons le professeur Sibankalala qui est en ligne. Bonjour, professeur.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Je me rappelle que l'année passée, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a eu une proposition de loi pour bien sûr, l'entrée au régime général pénitentiaire, je crois bien, c'était comme ça, cette proposition de loi était en discussion. Mais est-ce que le problème de l'amélioration des conditions de vie dans nos prisons, c'est un problème de nouveaux textes juridiques ou c'est un problème de la définition de la politique en ce qui concerne les prisons, les prisonniers, les régimes pénitentiaires, professeur Plongalala?
Oui, merci bien, monsieur le journaliste. Vous savez, la question des prisons de notre pays, sur population carcérale, comme on le dit, ressemble un petit peu au serpent de la légende. Vous coupez une tête, il y a trois têtes qui poussent, vous coupez trois têtes, il y a 1000 têtes qui poussent, et puis finalement, ça devient un problème insoluble. Et je viens de rentrer de Paris, de Bruxelles, où je séjournais pendant plus d'un mois. Eh bien, je lisais dans la presse belge, française, je trouvais qu'il y a aussi le même problème de surpopulation de prisons en Belgique, en France, un peu même dans les pays développés. Donc, c'est un problème récurrent et dans notre pays, c'est un problème structurel. C'est comme quelqu'un qui souffre d'une maladie chronique. Hein, donc, c'est structurel. Alors, comment résoudre ce problème? Moi, je fais un peu une comparaison entre la question des prisons et la question des universités et des études supérieures. Lorsque moi j'ai terminé l'université, en dernière année de droit, nous étions 98 et qu'il y a moins de 100 étudiants, finalistes en dernière année. Mais aujourd'hui, à la faculté de droit où j'enseigne, les finalistes en droit, c'est à peu près 1000 chaque année à peu près. Et on n'a pas conçu des nouveaux bâtiments, des auditoires, en tenant compte justement de l'augmentation de la population. C'est un petit peu la même chose avec les prisons. La population congolaise a augmenté sensiblement. La capacité de nos prisons est telle qu'elles ne peuvent pas accueillir tous ces gens qui ont des problèmes avec la loi pénale dans notre pays. Bon, c'est un problème. Et donc, pour des questions, il faut envisager de construire des prisons. C'est bien. Mais ça ne suffit pas de le dire, monsieur le journaliste. Hein. On ne change rien en disant qu'il faut construire des prisons, mais il faut être efficace. Ce qui est important. Donc, pour construire des prisons, il nous faut de l'argent, mais nous n'avons pas l'argent. La priorité, aujourd'hui, ce n'est pas la construction des prisons parce que nous n'avons pas l'argent pour le faire. Il est très pauvre. Ça, c'est le premier problème. Deuxième question qui se pose dans ce domaine, c'est savoir est-ce que la politique, ça c'est la deuxième volée, vous avez fait une belle analyse, c'est est-ce qu'il ne faut pas revoir tout simplement la politique globale de prison, la politique pénale dans notre pays pour tenter de résoudre ce problème. Je vois dans nos sociétés coutumières, avant l'arrivée des Blancs dans notre pays, nous vivions dans une société sans prison, il n'y avait pas de prison dans le village. Eh bien, il y avait des peines qui étaient prévues et qui étaient appliquées, où la personne restait à la maison et était condamnée à des travaux d'intérêt social, d'intérêt public, et il ne va pas en prison parce qu'il n'y avait pas de prison. Nous avons hérité d'un système qui nous a été laissé par les Belges, donc par les Européens, qui ont aujourd'hui le même problème des prisons, alors qu'ils ont encore beaucoup plus de moyens que nous, ils ont des problèmes de surpopulation de leurs prisons. Qui dure de nous, qui n'avons pas beaucoup de moyens pour construire les prisons, pour nourrir les prisonniers. Je vous donne un cas qui va vous faire rire et faire rire les auditeurs de Radio Capi. Justement, il y a à peine 3 ou 4 jours, en France, il y a un homme politique français, M. Le Jamais, si vous bien, qui dit que lorsque quelqu'un est condamné à perpétuité, parce qu'en Europe, il n'y a pas de peine de mort, en France en particulier, lorsque quelqu'un est condamné à perpétuité, prison à vie, il faut lui donner une corde dans sa chambre de prison, comme ça il peut en profiter pour se pendre et mourir. Ça a provoqué un tollé, je la pense. Mais lui, il dit, écoutez, on ne va pas garder quelqu'un en prison toute une vie, parce que ça coûte cher à l'État. Il faut nourrir cette personne, il faut la soigner, etc. Ça coûte très cher à la communauté, et donc ce monsieur n'a pas de place à prison, il faut l'aider, lui donner une corde, comme ça il peut se pendre. Ce que je vous dis, c'est il y a 3 ou 4 jours, ça ne fait pas 5 ans. Donc, voyez-vous, le problème de prison, c'est un problème grave, même dans des pays développés, ça coûte très cher. Et d'ailleurs, dans notre pays, il faut voir, réfléchir vraiment pour voir des peines alternatives. Voilà. Il ne faut pas tout à pour un oui, pour un non, envoyer quelqu'un en prison, mais il va là-bas, il va loger comment, on va le soigner comment. Il y a une charge pour la communauté. Il n'y a pas de place.
Merci,
donc, il
professeur.
Faut examiner de peines alternatives plutôt que d'envoyer directement quelqu'un en prison.
Merci.
En même temps, il y a aussi le magistrat du parquet qui lance tous les jours des maps, le mandat d'arrêt provisoire, avant de quelqu'un l'envoyer en prison. Mais évidemment, il faut insister sur le principe constitutionnel selon lequel la détention, c'est l'exception, c'est la liberté qui est la règle. Il faut vraiment envoyer quelqu'un en prison quand c'est vraiment nécessaire et indispensable qu'on puisse garder la personne là-bas. Parce qu'il y a des gens qui sont aussi en prison aujourd'hui, qui font des détentions préventives de plusieurs semaines, plusieurs mois, alors qu'en réalité, cette personne ne doit pas être en prison. Ce qui participe aussi, justement, de la surpopulation carcérale dans notre pays.
Merci, professeur. Merci beaucoup,
donc,
professeur.
C'est un problème complexe. Ça ne suffit pas seulement des conflits de prison, mais il faut une réflexion en profondeur pour réfléchir à la politique pénale, à la politique pénitentiaire, pour arriver à décrypter nos prisons.
Merci, merci beaucoup, professeur Bankalala. Vous avez présenté cette proposition qu'il faut aussi réfléchir sur les peines alternatives. Et cela peut être aussi une des solutions. Il ne suffit pas seulement de construire des prisons. Nous allons vous accorder la parole, maître Rufin Louko. Mais écoutons d'abord maître Richard Bondo, d'Avocats sans frontières, qui est sur les antennes. Maître Richard, bonjour.
Bonjour.
Vous avez suivi le professeur Bankalala. Nous dégageons les pistes de solutions pour l'amélioration des conditions carcérales dans notre pays. Mais au niveau d'Avocats sans frontières, y a-t-il de plaidoyer d'action que vous menez au niveau du pouvoir public pour que qu'on puisse quand même arriver à trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans nos prisons?
Merci d'avoir eu la question et d'avoir bien voulu associer Avocats sans frontières de la RDC à ce débat. Je vous apprends ou je vous informe qu'il y a 8 mois, Avocats sans frontières a travaillé dans ce secteur à la prison au centre pénitentiaire et de rééducation de Kinshasa, où nous avons répertorié plus de 800 détenus sans dossier. Je vous dis bien sans dossier, c'est-à-dire les gens qu'on a mis en prison qui ne connaissent même pas le magistrat qui les a envoyés là-bas, qui n'ont pas de conseils, qui ne sont pas suivis lorsque vous allez à l'administration pénitentiaire là-bas, où on ne vous dit même pas près de quel parquet le garde est poursuivi. Alors, vous comprenez que le problème n'est pas simplement au niveau de la politique carcérale, mais il est même managérial. Le problème managérial, pourquoi? Parce que ça commence d'abord au niveau des magistrats qui envoient les détenus sous mandat d'arrêt provisoire. Ces prisonniers arrivent en prison, ils sont oubliés et deux fois, le dossier qui est resté au parquet est égaré. Et par moment, le magistrat est surtout émuté, ou il est frappé de la révocation, ou de mutation, ou je ne sais pas, ou même retraité, et le dossier reste moisir au placard. Alors, c'est un problème même en Algérie. Et au niveau même de la détention là-bas, comment le prisonnier est-il nourri? Qui le prend en charge? Est-ce que l'État subvient aux besoins des prisonniers? D'abord, les conditions même carcérales. Au-delà du volet alimentaire, il y a le volet même carcéral pur, proprement dit, c'est-à-dire comment sont-ils logés? Comment les prisonniers sont-ils hébergés? Est-ce qu'ils sont dans les conditions qui respectent au moins leur dignité en tant qu'homme? Parce que, prenons le petit exemple de Kinshasa, où on dit que c'est un centre de rééducation.
Oui.
Est-ce que ces prisonniers sont formés au sortir de la prison? Ces prisonniers peuvent-ils être utiles à la société congolaise? Et donc, tous ces problèmes, pour moi, je les résume comme un problème d'ordre managérial, parce qu'il faut impérativement que ceux qui gèrent le ministère de la Justice, la direction pénitentiaire, les services pénitentiaires, doivent être à la hauteur de leurs responsabilités, c'est-à-dire savoir qu'ils détiennent des hommes comme eux, qui ont les mêmes besoins, mais qui, malheureusement, se sont mal comportés dans la société et qu'ils doivent être resocialisés. Ce n'est pas parce qu'il faut envoyer quelqu'un à la prison qu'il faut le condamner d'office à la mort. Parce que ce sont les oubliés de la République.
Oui, mais maître Richard, vous avez évoqué le problème managérial. Il y a le professeur Bankalala qui a parlé de la politique globale pénale. Il y a d'autres auditeurs qui ont proposé ça demande une réflexion. Pensez-vous Et ça peut rester seulement au niveau du ministère de la Justice, ou faudrait-il aujourd'hui, si je peux utiliser les termes, une sorte des états généraux ou table ronde autour de ces problèmes qui se posent dans la justice, le volet bien sûr de nos prisons, faudrait-il associer vous, par exemple l'avocat, ONG, le ministère de la Justice, autant de partenaires peuvent se mettre sur des tables pour dégager des nouvelles pistes de solutions pour résoudre ce problème, ou faudrait-il tous qu'on regarde au niveau du ministère de la Justice, maître Richard Bondou?
Vous avez d'ailleurs vous apportez déjà la solution, parce que j'ai dit tout à l'heure que c'est un problème managérial. Lorsqu'il s'agit d'un problème managérial, il y a plusieurs partenaires. Mm-hmm. Les partenaires, c'est-à-dire les ONG de défense des droits humains, il y a même des ONG au Congo qui sont spécialisées dans les questions de prison. Il y a le ministère de la Justice avec sa direction des services pénitentiaires. Il y a les magistrats eux-mêmes qui envoient les détenus en prison, les délinquants en prison, et il y a les principes directeurs de traitement des délinquants qui sont des normes du jus cogens arrêtées par les Nations Unies. Plusieurs congrès des Nations Unies sur le traitement des délinquants ont pris certaines règles qu'on appelle les principes directeurs. Tous ces principes doivent être intériorisé par les responsables de l'application des lois. Parce que le détenu reste par ailleurs un homme comme celui qui l'envoie en prison, comme la victime, mais il va falloir le resocialiser pour que la personne soit utile à la communauté. Merci. La communauté attend de chacun de nous une contribution, et ce n'est pas nécessairement la prison qui résout ce problème. Merci. Le problème, c'est d'abord les maladies, c'est-à-dire tous les gestionnaires, tous les partenaires, en commençant par l'État lui-même, les ONG et les magistrats eux-mêmes qui envoient tout ce monde à la prison.
Merci, maître Richard Bondou, de ces propositions. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'ONG Avocats sans frontières ici en RDC. Nous avons Louis-Serge Kévalicuit qui va garder la ligne. On va revenir à lui après que maître Ruffin Luco ait commenté ces propositions de cette deuxième série des auditeurs.
Parole aux auditeurs.
Maître, vous avez suivi, vous avez pris note, le professeur Bangalala est revenu avec beaucoup d'exemples, mais aussi de la proposition par rapport à la révision même de la politique globale pénale. Il y a aussi Maître Richard qui vient de proposer aussi cette symbiose au niveau de tous les partenaires au niveau de la justice pour qu'on puisse parvenir à aller au-delà de tout ce qu'on peut dénoncer maintenant pour proposer des pistes et des solutions. Vous avez suivi ces propositions, mais aussi à des effets qui sont revenus avant, comme Thomas Dekindou, avec quatre vraiment propositions qui sont intéressantes.
Tout à fait, j'ai salué toutes ces contributions, j'ai salué le confrère Soubangou, le confrère Bondo, avec les contributions qu'ils ont données également par rapport à la réflexion qui nous concerne et qui nous intéresse maintenant. En dépit du fait que le décor qu'a dressé le confrère Bondo est un décor très caricatural et trop sombre par rapport à concernant notre habitation pénitentiaire. Bon, tout ça, c'est bien. Il faut rappeler en même temps que nos magistrats arrêtent les gens, les envoient en prison au nom de nous tous, au nom de la loi. Donc, il ne les faut pas pour le plaisir de le faire. Il les faut au nom de la loi. Nous avons stigmatisé un certain nombre d'excès par rapport à un certain nombre d'arrestations qui, n'est-ce pas, auraient dû s'arrêter au strict minimum et n'est pas envoyé tout le monde en prison. Mais on n'insiste pas davantage, Pierrot, sur un maillot fort dans le désengorgement de la prison.
Mm-hmm.
Ça veut dire, je vous donne l'exemple, la loi prévoit, parce qu'il y a un système légal qui nous protège tous.
Mm-hmm.
Au Congo, nous avons ce qu'on appelle les juges de la liberté. Un juge de la liberté. 48 heures pour l'OPJ à détenir les gens, 5 jours pour le ministère public, le parquet.
Mm-hmm.
Mais après 5 jours, vous devez présenter la personne devant les juges de la liberté. Et sur le sujet de la Matala, par contre, si vous citez seulement l'exemple de Matala, vous êtes toujours plein là-bas les juges de la liberté pour vérifier que les juges qui sont chargés, c'est le tripé, ils sont chargés de contrôler la qualité de la détention. Donc déjà, 5 jours après ta présence en prison, vous avez aujourd'hui la possibilité d'obtenir votre liberté provisoire. Il faut donc que notre population puisse prendre en charge ces bénéfices de la loi, ces droits qu'a posé la loi, d'obtenir ta liberté si vous avez été incarcéré arbitrairement devant le juge. Par exemple, pour dans ce décor caricatural que l'avocat sans frontières RDC, parce qu'il y a Avocats sans frontières Belgique, Avocats sans frontières France, et avec Monde aussi, Avocats sans frontières Congo.
Si les compatriotes pourraient profiter du fait que, aussitôt que vous êtes en prison, le juge de la liberté, on vous présente des valeurs et que vous n'aviez pas de dossier, ça veut dire que le ministère public et le parquet arrivent sans dossier, c'est la possibilité pour vous de trouver à ce niveau-là votre liberté provisoire, donc de conquérir et d'obtenir votre liberté provisoire. Donc, le juge de la liberté existe au Congo. Il faut donc qu'on insiste sur ça. Il n'y a pas seulement que le procureur qui peut libérer les gens, le ministre, le procureur général du public, ou le ministre de la justice, ou le président de la République. Il y a aussi, d'une façon approximative, donc d'une façon pas approximative, des proximités, c'est-à-dire le juge le plus proche, voilà. L'autorité qui est chargée du contrôle d'AS permanent et quotidien, c'est le juge d'état qu'on appelle le juge de la liberté, qui est chargé de contrôler les détentions. Et là, lorsque vous vous retrouvez devant le juge de la liberté, eh bien, c'est 5 jours après. Donc, nos détenus qui sont en prison, qui sont nombreux, comme on dit, si vous avez déjà fait plus d'un mois sans avoir été présenté devant le juge de la liberté, il faut le réclamer. Et dès qu'on vous présente là-bas, première chose, réclamez votre liberté prison. Donc, il faut insister sur ça. Et puis, nous rappelons que ça ne va pas changer chez nous avec l'héritage de cette loi que nous avons, dans la loi pénitentiaire qui est déjà obsolète totalement. Et il faut une
loi, un nouveau texte.
Pas un nouveau texte. Une réforme approfondie, c'est-à-dire plusieurs textes que nous sommes en train de préparer pour soumettre. Déjà, ce texte que nous avions soumis la fois passée dans cette législature qui n'a pas été traité jusque-là, au Parlement, nous voulons soumettre plusieurs textes. Plusieurs textes, notamment cette histoire de travaux d'intérêt communautaire. Nous n'avons pas besoin d'avoir des gens qui sont condamnés à la peine capitale, à la peine de mort, qui ne peuvent pas, qui ne peuvent rien faire. Et tu imagines, vous êtes condamné à 20 ans et vous êtes en prison, vous êtes assis 20 ans. Or, si vous aviez une occupation, une formation, vous pouvez terminer vos 20 ans et vous sortez, vous avez déjà acquis un métier, vous avez déjà, vous êtes déjà spécialisé dans les études, dans ceci, dans cela. Donc, non seulement vous vous nourrissez vous-même, et vous avez aussi acquis une expérience,
voilà.
Dans l'état d'été. Et puis les gens doivent se rappeler que non, les détenus n'ont pas plus de droits que ceux qui sont libres. Parce que d'aucuns réclament plus que non, oh non, il faut venir en aide aux détenus. Mais les victimes, il faut passer le gouvernement aussi.
Voilà.
Pense aux victimes. C'est là à qui s'est détenu, ou s'est condamné, on coupait les bras, on crevait l'œil, on tuait les parents, on tuait les enfants, on fait ceci de cruel, on violait, on fait cela. Eh bien, nous pensons à tous les deux. Il faut donc considérer que non, autant c'est séance des droits, autant c'est la
également. Voilà, nous allons écouter rapidement parce qu'on finit déjà cette émission. Nous avons une minute à chacun. C'est lui, Serge Ketakikui, que Dieu donné, qui est à Kananga. Vous avez à chacun une minute pour donner votre point de vue. Nous allons lire quelques messages et vous remettre la parole pour conclure cette émission. Lui, Serge, vous êtes en ligne. Bonjour.
Bonjour, Pierrot. Bonjour, maître.
Ripa Lukoui. Vous êtes voilà. On vous écoute rapidement, oui.
Oui, tout a été dit. Voilà ce qu'il faut faire. Parce que pour le moment, on se pose la question si ce sont de véritables prisons ou des camps de concentration. Parce que les conditions dans lesquelles ils vivent, c'est vraiment de l'esclavagisme. Bon, je crois que ce qu'il faut faire pour le moment, c'est de construire aussi des maisons d'arrêt. Dans ces maisons d'arrêt, on met les prisonniers dont les dossiers ne sont pas encore jugés. Donc, dès que c'est jugé, alors à ce moment-là, on va voir quel prisonnier de telle peine à telle peine, on les transfère dans les prisons centrales comme le maître Rousseau venait de dire qu'on va construire. Mais pour le moment, les prisonniers qui est arrêté, dont le dossier n'est pas encore jugé, il faut tenir compte du principe de... Comment est-ce qu'on s'appelle encore là? C'est quelqu'un qui n'est pas encore condamné. On le met dans la maison d'arrêt. Maison d'arrêt qu'on avait, par exemple, à Kananga. On avait une maison d'arrêt à côté, la prison à côté. La maison d'arrêt, on appelait ça Guantanamo. Maître, tu as évoqué beaucoup de choses, mais je crois
merci,
que...
Merci, Louis-Serge, voilà. Merci, Louis-Serge, vous avez suivi. Vous avez complété, d'ailleurs, l'idée qu'avait Maître Louco. Merci quand même qu'on n'a pas pu avoir l'occasion de vous accorder beaucoup de temps, comme on finit déjà cette émission. Là, ça va être 40 secondes pour Dieudonné qui est à Kananga. Bonjour, Dieudonné.
Merci beaucoup, Louis-Serge. Sinon, tout ce qu'on devrait dire a été déjà dit par nos prédécesseurs.
Oui.
Mais on a quelques préoccupations qui mettent à notre invité là.
Allez-y rapidement parce que
on ne sait pas. Juste quand la tête est malade, c'est tous les corps qui souffrent.
Mm-hmm.
Ici, la responsabilité est surtout donnée et on s'en peut attribuer au gouvernement et à la justice. Au gouvernement, pourquoi? Parce que jusque là, c'est comme si là, le gouvernement ne s'intéresse pas réellement aux situations posées par nos prisonniers ici. La justice aussi a une part de responsabilité dans le jugement. C'est comme s'il y a une lenteur là.
Lenteur, voilà. Merci de donner en tout cas. Merci de donner. On va terminer cette émission avec Koutoua Drago, qui a écrit ceci de Ariouara. Les prisons sont normalement les centres de rééducation et de correction. Il nous arrive parfois que cette rééducation ne s'efface pas. Je pense que les OPJ ont une tâche importante pour éviter le surpeuplement des prisons. La question posée serait de savoir quelles sont les conditions pour devenir un OPJ. Quelle étude ou formation doit-il avoir? Pourtant, des questions posées par Koutoua Drago et le dernier message de Franck Devienne qui dit ceci. Comment pensez-vous que les prisonniers bénéficient d'un autre traitement dans un État où les droits fondamentaux des citoyens sont parfois intentionnellement bafoués, ignorés? Ces traitements de torture réservés aux prisonniers et la résultante de ce que les autres Congolais vivent au quotidien avec des assassinats, musulmans de la presse, des enlèvements, arrestations arbitraires, des actes de torture sociale. Alors, pour Franck, il pense que ce n'est pas pour qu'on se un tel déficit au niveau des prisons, l'on doit humblement reconnaître que les droits fondamentaux des Congolais sont bafoués et c'est souvent de manière organisée. À base de ce qui se vit, il se voit et se fait constater. Ce n'est plus un mystère que de tels traitements inhumains puissent être réservés aux prisonniers. Nous terminons avec Moïse Kouba qui dit que les prisons au Congo sont devenues des cimetières, un lieu de formation des criminels. Un message d'un auditeur qui a gardé l'anonymat qui dit ceci. Et quand est-ce qu'un magistrat nouvellement nommé? Quand est-ce que les magistrats nouvellement nommés vont-ils commencer leur préparation? Voilà, c'est une revendication des magistrats nouvellement nommés. Mais tout ça, c'est dommage. C'est juste 30 secondes, je me rends compte, l'émission se termine. Qu'est-ce qu'on peut retenir en émotion?
On retient que les magistrats ont déjà commencé, tous les magistrats qu'on a nommés ont déjà commencé.
Mm-hmm.
On fait que les magistrats sont encore chez eux, mais les magistrats ont déjà commencé. Mais la justice, c'est un problème de moyens. Il faut donc que le gouvernement qui entre la nouvelle législature puisse absolument penser à nous donner beaucoup de moyens. En fait, donner, donc doter autant, les attentes sont nombreuses ou importantes, il faut donner des moyens. On ne saura pas. Il faut ajouter également que nous avons construit la prison de Saint-Adéné de Bangoum. Donc, tout ça davantage pour donner la visibilité par rapport au travail que nous faisons. Mais nous allons continuer avec les transferts projets parce qu'il faut le moyen.
Merci beaucoup, Maître Rufin Luco. Voilà, on se retrouve le lundi avec les auditeurs. Nous allons parler des banques. Vous voyez, beaucoup de banques ouvrent leurs portes en RDC, s'installent dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos milieux. Et la question pour l'émission de lundi est celle de savoir si ces banques répondent réellement aux besoins de la communauté. Et soyez nombreux à vous inscrire à pa@radiocapi.net. Pour nous, l'équipe, je m'avoue vous souhaiter un agréable week-end en compagnie de Radio Capi. Au revoir.